Hey, baby, how about this dance? Why? Because it takes two to do this dance. Takes two the tango, two the tango, two to really get the feeling of romance. Let's do the tango, do the tango, do the dance of love. You can sail on a ship by yourself, take a nap or a nip by yourself. You can get into debt on your own. There's lots of things that you can do alone. But takes to the tango, to the tango, to the really get the feeling of romance. Let's do the tango, do the tango, do the dance of love. And you can croon to the moon by yourself, take a left like a loon by yourself. Spend a lot, go to pot on your own. There's lots of things that you can do alone. But listen here, it takes two to tango, two to tango, two that really get the feeling of romance. Let's do the tango, to the tango, do that dance of love. Oh, Zed. Yeah, who's gonna dance with me now? 'Cause it takes to the tango, to the tango, to really get the feeling of romance. Let's do the tango, do the tango, I do that dance. Alors, of love.
En quête de cinéma, nous sommes au mois d'août 2017. Nous sommes sous la canicule à Arinc, à côté de la tour CGM, avec Waïm Mortada, qui habite dans ce quartier depuis plus de 15 ans et qui filme au quotidien les transformations, destructions de ce quartier. Qui a commencé Ça a commencé quand, Waïb, les travaux dans ce quartier?
Voilà, c'est le quartier d'Arinc, connu à l'époque parce que c'était le croisement des chemins de fer et du port autonome. Le quartier d'Arinc. Ça fait 17 ans que j'habite ce quartier. Et on est exactement à l'angle de la rue Antoine et rue Urbain 5. C'est des noms qui rappellent peut-être un peu la période du débarquement, la Deuxième Guerre. Et aujourd'hui, après... toute une histoire industrielle passée. Moi, quand je suis arrivé en avril 2000, je me suis installé dans ce petit studio. D'ailleurs, on va faire le tour et on y reviendra tout à l'heure. C'était que des friches, des huileries, des anciennes huileries, transformées en casse automobile. Il y avait une petite briqueterie là. Ensuite, il y a eu la Fiesta des Suds qui s'est installée dans les anciens docks des Suds, parce qu'il y a les docks de la Joliette et il y a les docks des Suds dans ce quartier qui servaient de dépôt pour la manutention et la réparation navale. Ensuite, qui ont été repris par les sucreries Saint-Louis. Ils s'en ont servi pendant une longue période de dépôt, de stockage, avec tous les surplus de production a été stockée ici. Et donc par la suite, c'est la Fiesta del Sud qui a repris ses locaux pour organiser du spectacle de masse, grand public. Et aujourd'hui, ils vont être complètement rasés, ces lieux. Et les activités de la Fiesta del Sud, qui est maintenant un festival et des événements annuels qui ont fait leur preuve, ils vont être installés au dock, au silo, les anciens silos à grains. Voilà. Par où on commence l'eau?
Alors, juste pour préciser, quand toi tu arrives dans cet appartement, c'est rue Ruffy, c'est ça?
Voilà.
Quand tu arrives dans cet appartement en 2000, tu t'habites au cinquième étage. Tout à l'heure, on ira écouter le son du cinquième étage. Et quand tu arrives, en fait, tu as une vue totale sur la mer.
Au tout début, oui. Au tout début, avant la naissance de cette tour, oui, j'avais une petite vue sur la rade, sur le port d'abord et surtout sur l'ensemble de la rade. Et aujourd'hui, elle se rétrécit. Le champ visuel se rétrécit alors que dans les logos et dans le concept visuel des architectes de cette tour, ils parlent de skyline, c'est-à-dire pour eux, les espaces de bureaux et les espaces d'habitation en standing qu'ils créent pour une population encore fictive, hein, on ne les a pas vus venir. C'est surtout la vue, cette vue, justement, qui les intéresse. Donc, en définitive, nous, d'ici quelques années à venir, on voit déjà notre champ visuel se rétrécir peu à peu. Ça devient leur skyline. Jusqu'à un moment où il y aura un rideau de béton et on aura perdu toute la vue sur mer. J'aimerais bien te sortir un texte que j'ai écrit là-dessus. Donc le chemin de Madaragueville, tu vois, il commence juste là, à cet angle de rue, rue Antoine et rue Urbain 5. D'ici, la ville est comme un espace de liberté. Pour moi, quand je m'étais installé, je sentais mais vraiment que oui, au milieu de ces friches, au milieu de ces espaces encore sauvages, au tout début, c'était une petite crique. Hein. Vers le 19e siècle, c'était une petite plage à Rinc. Mais en même temps, cette part de liberté nous est retirée. Le constat est aujourd'hui, et je crois bien qu'il y a quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est là, en train de naître. C'est peut-être aussi le passage du rêve, d'un rêve, quelque chose que l'on a rêvé mais qui devient réalité, un réalisme mais cruel. Le chemin de la Madragueville est peut-être aussi un cheminement dans ma vie, le lieu d'où je sortais ou je sortirai peut-être un peu plus grandi. C'est comme si j'étais resté enfant avec dans ma petite bulle, dans mon petit studio de pièces cuisine. Je me sentais comme un enfant avec toute ma liberté, mon indécence liberté, la liberté d'un enfant. Peut-être avoir. Il est vrai que sur ce chemin, que je traversais tout le temps pour aller jusqu'au marché aux puces et au-delà, je pouvais aller en marchant à pied jusqu'à l'Estac. Il y a un mur. Et ce mur, ce long mur, nous interdit l'accès à la mer et au port. Ce mur semble nous narguer, car il y a plusieurs entrées, mais toutes nous sont refusées, bouclées. Beaucoup de choses ont disparu et peu à peu sont remplacés par des grilles. On voit beaucoup de grilles. Les grilles du port. Même les lieux ont changé. D'autres activités se sont installées. Le chemin de Madragville nous mène directement aux puces. Avant, c'était les abattoirs. Mais avant, c'était la rue des Marins. Je trouve qu'il serait intéressant de parler de ce manque d'accès à la mer. Parce que tous ceux et celles qui vivent de ce côté de la ville, Marseille, il s'agit bien là d'un manque. Ce mur paraît être cette double barrière. Il y a deux frontières pour nous, les Marseillais, qui habitons à côté de la mer. Il y a d'abord ce port qui est fermé, il n'y a plus d'activité. La mondialisation n'a pas réussi à le relancer et que finalement, il ne justifie plus son occupation. Pourquoi donc tout cet espace enfermé par des grilles? Et cela est accepté quand même par la communauté des Marseillais. C'est comme ça et comme cela que ça se perdure de génération en génération. Je pense que sur le chemin de Madragville, nous sommes ceux qui sont les plus proches de la mer et nous sommes en même temps les plus éloignés, car privés. Nous sommes privés d'accès. On doit aller encore plus loin alors que nous sommes si proches. Pour aller jusqu'à l'Estac à droite, soit à David à gauche, alors qu'il y a plein de chemins à partir de ce chemin pour y parvenir.
Alors, où est-ce qu'on se continue notre déambulation? Là, on est au pied de la tour.
Donc, il y a cette hécatombe, tu vois bien, il y a cet égout qui a été pensé finalement après la construction de la tour. Et c'est le ruisseau des Égalades en fait. C'est tous les eaux de ruissellement, c'est tout le bassin versant des quartiers nord jusqu'à la Savine. Égalades, Savine et beaucoup plus loin encore. Qui déboule là, qui débouche ici finalement, sous le pied de la tour. Tiens, on va avancer un petit peu. Je vais voir. Donc ce bâtiment-là, 12 rue d'Antoine, il est voué, comme tu le vois, à la destruction. Regarde. Tout est muré, il reste trois locataires, dont Michel, Michel que j'avais interviewé il y a quelques années, il est raciste Michel. Il y a deux gitans et une arabe avec ses enfants. Voilà, c'est comme un incubateur, c'est peut-être un petit laboratoire pour... Ils ont tous une activité dans les services de voirie de la ville. Donc c'est pour ça que la ville les a gardés comme des témoins, des gardiens de cet immeuble, qui n'a d'ailleurs plus, qui a perdu tous ses ornements extérieurs. Voilà.
Il est en train de se fissurer un peu de partout.
C'est resté un petit laboratoire qui réunit ces trois mondes. Un franciscain raciste, deux gitans et une arabe.
Et quand tu arrives, tu disais que tu arrivais dans ce quartier en 2000, c'est ça?
Oui. Oh.
Est-ce que tu commences à... Tu sais que tu vas commencer à filmer tout de suite cette histoire? Ou ça prend un
non.
peu de temps?
Non, alors l'histoire du film commence en 2006. Au début, je faisais de la peinture, je m'amusais, comme je te dis dans mon texte, je m'amusais, j'occupais mon temps comme un gamin. Il y avait beaucoup de détritus, de déchets, mais moi je récupérais énormément de petites choses comme ça que je transformais. Mais en 2006, ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle, j'avais une 405, une Renault 405, et sur deux jours de suite, on a eu tout le quartier, enfin la police municipale a balisé, et on a tous été verbalisés pour virer nos voitures. On n'avait plus le droit quoi, de stationner en bas de notre immeuble. c'était bizarre quand même. Comment ça se fait que du jour au lendemain, on nous interdit sans aucune prévention à l'avance. Donc on s'est quand même manifesté, on s'est organisé et les PV qui ont été dressés contre nous ont été levés. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On voit pousser petit à petit les bites. On les appelait les bites de Gaudin. Là, ces petites bites qui interdisent le stationnement et qui coûtent 600 euros hors taxe, pièce. Je ne sais pas si les gens connaissent le prix de ce que ça nous revient. Alors, voilà. Ensuite, donc, il y a eu tout un plan de rénovation des feux rouges. Et qu'est-ce qui se passe donc sur le terrain que tu vois là au milieu? Là,
en face des docks du sud.
Voilà, il y a toujours des tournages, tu vois, il y a plein de camions qui sont stationnés. En boucle, on ouvre le. C'est d'un côté à sens unique, de l'autre côté, il faut faire le tour du pâté de maison plusieurs fois pour trouver une place de libre. Là, on voit qu'il y a des camions d'un tournage cinéma, certainement, qui va se faire cette nuit. À ce moment-là, le terrain vague qui se trouve au milieu, qui a depuis toujours été terrain vague, la ville certainement pensait se poser la question comment ils vont le réutiliser, comment l'occuper pour faire des rentrées d'argent certainement. 2006, c'est le début de la construction, c'est les fondations de la tour CMA-CGM. C'est là où on a commencé les premiers marteaux-piqueurs, le coup de marteau, le pilon. Et à ce moment-là, pour faire la mise en scène de ce chantier naissant, puisqu'on commençait à voir les fourches des fondations qui pointaient vers l'extérieur, vers la surface. Un festival. Ils vont installer un festival qu'ils ont appelé le Grand Bazar. Et le Grand Bazar, ça consistait à quoi? Ça consistait à faire un deal avec les artistes de rue qui s'étaient installés aux abattoirs d'une manière en tant que squatteurs. Ils étaient squatteurs. Ils avaient juste une promesse verbale avec la ville qu'ils n'allaient pas être virés du jour au lendemain parce qu'ils participaient pleinement à tous les carnavals, à toutes les manifestations spectaculaires que la ville organisait, que ce soit le feu d'artifice, parce que c'est quand même une vieille compagnie et très expérimentée de professionnels. Oui ? On passe en direct là. Vous voyez ? Voilà. Ça c'est la zone franche, alors on en reparlera tout à l'heure. Mais donc pour continuer, donc en 2006, les fondations de la tour commencent. Et ils organisent donc la mise en scène avec le Grand Bazar. Dans ce spectacle, c'était le clou du spectacle, c'était le lancer de piano. Donc ils ont récupéré tous les pianos foutus dans les poubelles et ils les mettaient dans une catapulte et hop, ils les explosaient au sol comme ça par un lancer. C'était spectaculaire. En plus, on nous offrait une coupe de champagne gratuite. Il y avait des foules de gens qui venaient de toute la région, hein, pas que de Marseille, de toute la région, avec les enfants, avec... Et tu avais aussi des machines assez bizarres qui en même temps faisaient de la musique, mais en même temps qui distribuaient des tartines au Nutella. Et c'était tout gratuit. C'était tout gratuit, les gens ils adoraient ça, il y avait foule de gens qui commençaient à déambuler dans le secteur. Donc c'était la porte ouverte au grand bazar, quoi. Au Grand Bazar, parce que c'était le début de la grosse opération qu'après on nous annonce qui s'appelle Euromad, avec un établissement public qui a été créé à la clé.
C'est à ce moment-là, c'est là que tu filmes tes premières images.
Le premier
tournage commence en 2006.
Quand j'ai vu ces PV, cette manière violente de, j'ai senti après coup que la ville nous préparait, nous habitants du secteur, à un grand spectacle, quoi, et qui allait détonner. Même quitte à utiliser des moyens de la verbalisation de l'automobile, c'est qu'un petit signe. Mais cette culture à la masse, par exemple, c'est encore pire.
Mais le pire des choses, c'est qu'on a vu brûler, on a vu les docks des Sud brûler. L'opération de sauvetage, c'est-à-dire parce que quand les pompiers sont arrivés, le feu a pris le bâtiment des docks des Sud dans la nuit. La ville avait déjà préparé son plan pour éteindre le feu. Ils ont fait venir un bulldozer qui a cassé le toit directement. Ils ont appelé une méthode d'éteindre le feu par étouffement. Mmh. Au lieu d'utiliser des lances à eau, ils ont utilisé un bulldozer, ils ont cassé le toit, mais sans attendre. D'accord. Et donc c'était complètement bizarre de voir un feu se faire éteindre de cette manière.
Ouais, plutôt violent,
si c'est pas violent. Et surtout, on voit la mise en scène qu'il y a derrière, hein. La pyromanie. Ne parlons pas à la violence qui a été faite aux Roms qui habitaient le quartier, parce qu'ils notaient leur vie, c'était ça. C'était entre d'une case à l'autre, en même temps ça leur servait de lieu d'habitation, mais en même temps c'était leur business, quoi. Il y a de la ferraille à récupérer, il y a... Et donc on a délocalisé, Michel il m'a fait des témoignages qui sont très virulents envers les Roms, d'ailleurs qu'il les traite d'animaux. Hein.
Ah ouais.
Ouais, y a des gens qui parlent des Roms comme si c'était
oui,
des
oui.
animaux.
Ah, oui, oui.
Et donc le film un peu montre tout ça, voilà.
Ouais.
Je faisais le reporter si tu veux. Mais très vite, je me suis dit que ce ne sont pas que des reportages isolés parce que je ne pouvais pas. Il n'y a pas de télévision vraiment autonome libre à Marseille.
Ah, tu peux passer les reportages.
Made in Marseille, voilà, c'est une vitrine de bobos qui ne veulent pas s'impliquer dans des questions liées à la politique de la ville ou autre.
Mais d'accord, donc ce qui te fait que tu t'es mis à filmer en 2006 et que tu as pas arrêté depuis.
Voilà, ces petits reportages qui illustrent ces actes violents de service de la ville de Marseille, des actes violents envers les populations qui habitent les lieux, feront partie d'un documentaire. Qui retrace toute l'histoire de cette réhabilitation.
De ce grand bazar. Qu'on est pour le moment qu'à la deuxième étape au final. On n'en est pas encore, on a fait la moitié de ce grand bazar.
A priori, oui, le projet Euromed, il termine en 35.
En 35, il est perdu. En 2035, la fin de ce projet est prévue.
Voilà, on est à Remède 2, bientôt à Remède 3, parce qu'on va, y arriver. On va y arriver au terminus du tram. Et
le tram qui s'arrête, le terminus du tram qui s'arrête à Arinc.
À la porte d'Arinc, voilà.
C'est là où il y a une deuxième tour qui est en train d'être construite.
La tour nouvelle, oui.
D'accord.
Donc là, on est en bas de la tour. On va faire de l'autre côté. D'abord, voilà, le lien entre... Comment s'est fait l'opération D'abord, il fallait acheter le terrain. Tu vois ici, on est au pied de cette construction métallique. C'est écrit Story One. C'est la première histoire. Hein, c'est le premier film qu'on fabrique ici. Story One.
Francine.
C'est les farines Francine. C'est la fabrique de... Ouais. De farine.
C'est la fabrique de farine.
Made in Marseille par excellence. Et les moulins de l'autre côté.
En face.
Entre les moulins et ce bâtiment métallique qui sert en fait à drainer par le biais d'un tapis. Il y a un tapis souterrain, il y a un tapis coulissant qui ramène donc la farine une fois moulue là-bas. Ici pour être acheminé. Dans les conteneurs
qui sont derrière la tour,
les conteneurs
qui partent
par chemin de fer, par wagon. Ils partent dans des wagons spéciaux, voilà, pour être après redistribué à la grande industrie du pain et à l'international. On va faire le tour, Lolo, si tu veux. Comme ça, on sera bien au pied de la tour. Voilà, donc le bâtiment des Docks des Suds qui est peint en noir et rouge à cet endroit, il va bientôt être rasé lui aussi.
Ce que tu disais, toute l'activité culturelle et musicale des Docks des Suds vont être transférées au silo.
Dans les silos, ouais, les anciens silos. Silos à grains. D'accord.
Les anciens silos à grains, qui ont gardé le nom.
Ils ont gardé.
La culture garde le nom, mais efface l'histoire.
Parce que derrière ça, moi je vois quand même une violence symbolique qui est très frappante. Ces silos à grains, moi je les appelle les graines de stars dansent tous les week-ends dans ces silos. Et c'est...
Oui, parce que c'est pas une. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au silo, c'est pas. C'est devenu de moins en moins une culture artistique et musicale accessible. Parce que quand tu commences. Alors, je sais pas comment c'était en 2000, mais quand tu regardes le prix des spectacles au silo, il y a tout de suite une économie qui a augmenté, quoi.
Oui.
C'est quand même. Les places sont à 30 euros, oui. 40 euros.
Les anciens docks transformés en shopping à merveille. Où tu peux acheter un briquet à 100 euros,
voilà, ouais.
Un slip à 1000 euros. Tout est tiré par les cheveux, par le haut. Ouais. On tire par le haut d'ailleurs. Dans la mise en scène de ces tours, que l'on appelle de l'architecture verniculaire, qui tend vers le ciel, qui est perché vers le haut, ne calcule pas le petit, ne voit pas ce qu'il y a au haut.
Ouais, ski, oui,
ski
oui.
Est en bas. Elle tend vers ce qui est
en haut.
Ce qui touche au vertigineux.
Flambonne. Mais ce qui fait que tu as vu petit à petit, là, depuis 2000 aussi, la population se transformer ou comment. Parce qu'on voit pas trop encore de nouveaux habitants comme ils fantasment. De ces nouveaux Marseillais qui viendraient s'installer, ils ne sont pas encore trop arrivés pour le moment.
Petit à petit, oui, petit à petit.
Tu les vois.
Petit à petit, mais.
Parce qu'on voit les Men in Black sortir de la grande tour, oui. Mais tout de suite ils prennent le tram et boum, ils partent. Pour le moment, ils ne sont pas.
Voilà, c'est-à-dire que leur parcours dans ce périmètre de ville est limité. Comment dire, il est programmé.
Ouais.
Hein, il sort du bureau, il prend le tram et il se rend au Vieux-Port prendre sa voiture et il part à Aix ou ailleurs où il monte directement à l'aéroport Marignane, prendre son avion, rentrer à Paris.
Ouais.
On tourne le lendemain.
C'est tout calculé. Donc ce qui fait que derrière tout ça, tu as une volonté que ce quartier ne soit plus un quartier d'habitat alors. Ça va devenir un quartier que d'affaires ou de.
Bah, le seul habitat que je vois encore pas résidentiel, pas de standing, habitat social, quoi, qui résiste, c'est celui où j'habite. Ça a été construit par la ville de Marseille, les années 30, de 32 à 38, et ça abritait ça servait de logement de fonction pour les. Pour tout le personnel de la ville de Marseille. Aujourd'hui, nous qui habitons ces immeubles, Sojima elle s'est délestée et la ville reprend ses droits de quota sur les 5% de logements sociaux. Mais tout autour, tu vois que tous les bâtiments qu'ils construisent, c'est pas des logements étudiants, hein. C'est des logements de standing. Ils ne pourront être achetés ou occupés en termes locatifs que par une population moyenne, mais vraiment...
Moyenne plus.
Voilà. Donc là, on traverse
Tout ça s'inscrit aussi, bien évidemment, dans ce Marseille capitale de la culture qu'on a eu. Et s'inscrit aussi dans Marseille, capitale du sport, et ainsi de suite, quoi.
Capitale de rien. Voilà, la fameuse affiche dont je te parlais.
Alors, ouais,
tout à
l'heure. Donc pour Donc là, c'est la nouvelle affiche qui se situe juste en bas de la tour, entre les deux grandes tours. Et sur cette affiche, on voit une sorte. On voit un cargo qui transporte, qui est rempli de cargaison. Il vole dans l'espace. Et dessus et à côté, il y a écrit Shipping the Future. Alors, shipping en anglais, qu'est-ce que ça veut dire ?
Surfer sur le... Eux, ils surfent
voilà. sur le futur.
Et moi, je le ressens comme si on me ship le futur. On me le vole. On me prend mes yeux. On me vole. On me prend ce qui me sert de voir le monde. Demain, j'aurai plus de vue sur la mer. Hier, il y a quelques années, quand j'ai habité ce parc en friche, j'avais cette vue sur la mer, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, le parc s'appelle le parc habité, d'ailleurs. Hein, ça ne s'appelle plus... je ne me rappelle plus le nom qu'il avait, le secteur. Ça va me revenir. Et aujourd'hui, ça s'appelle le parc habité. Alors que, voilà, son image m'habite à jamais. Malgré qu'on m'a chippé le futur. C'est comme si je devenais aveugle à la fin, puisque vu la vue que j'avais sur le balcon, donnerait sur quoi ? Donnerait sur d'autres balcons, en béton.
Et même pas, puisque là, les tours qu'on voit qui se construisent, c'est des tours sans balcon. C'est des tours... les nouveaux lieux de working collective. Ou...
Imagine, là j'ai fait un petit calcul rapide, mes loyers résidentiels depuis 17 ans que j'habite. Alors je calcule 170 x 17 par 12, ça fait 34 680, c'est mon résiduel. Hein. Un petit pavillon au bord de l'eau, de quoi construire un petit pavillon. Mais je ne suis plus chez moi. Je suis chassé de chez moi. Je ne peux plus payer de loyer. La taxe d'habitation pour un studio de 18 mètres carrés est de 320 euros annuels, en plus de loyer mensuel. Donc c'est pour me dire, casse-toi, tu n'as plus le droit d'habiter sur ce lieu. C'est une forme de résistance. Et c'est ça le cinéma, c'est que ça nous permet ça au moins. C'est une forme de résistance, parce qu'on peut au moins exprimer tout ce qu'on est en train de dire là, par des images et du son. D'ailleurs, les auditeurs de ton émission, ils entendront ces bruits-là affreux, en arrière-plan.
Donc là, on longe...
Le refroidissement, parce que ces grosses machines, ça chauffe.
On longe la tour, le bas de la tour.
Sous laquelle on se trouve là, tu imagines, pour refroidir tous ces espaces. Le monstre de turbine qu'il faut pour refroidir le monstre.
On est à droite, il y a le pont qui mène à l'autoroute et qui mène aussi à l'Estac. On est entouré d'une barrière, entre une barrière et la tour, et c'est vrai que cet endroit-là est totalement différent que l'endroit dans lequel on était il y a quelques minutes. On sent que c'est un peu deux mondes, quoi.
La dame en face de nous, elle marque comme une hésitation. C'est comme si, tu vois, qu'est-ce que c'est, genre.
Ah oui, non, mais il y a deux mondes là qui se... Avec une frontière finalement entre ces deux mondes là, c'est un peu le train qui fait la frontière. Et finalement, alors qu'on est chez nous, ben... Puisqu'on est, voilà, Marseille, on l'habite, bah on est un peu comme si on était les étrangers, les gens nous regardent. Voilà, donc là on traverse un couloir de motos et de scooters de haute gamme. Voilà, c'est très bruyant comme endroit, hein, c'est une charge sonore assez impressionnante.
Fétiche pour parler de cette fondation. La fondation, c'est MSVM.
Donc là, on s'approche de cette sculpture dont tu vas nous raconter un peu sa petite histoire. Je pense que beaucoup de Marseillais ou de touristes ont dû l'apercevoir, bien qu'elle a changé de place depuis quelques temps, puisqu'elle avait été cassée. Cette sculpture qui représente deux sumo en train de soulever un conteneur. Donc cette sculpture a été déplacée parce qu'on lui a cassé la jambe au sumo. Donc on l'a renvoyé à Paris, ils l'ont reconstruite et on l'a relivrée là. Ça c'est le particularisme des vrais Marseillais, c'est qu'ils cassent ceux qui ne l'auraient pas adressé, ce qui en soi est une bonne chose et il faut continuer à le revendiquer.
Oui, au départ elle était au jardin de Mirès, un peu plus loin, quand le tram n'était pas encore arrivé jusque là. Et tu vois, le soulèvement du conteneur, le conteneur empaqueté CMA CGM, le geste de soulèvement, il est
c'est un geste de puissance.
De puissance, oui, de tension. Oui, pardon.
Pourquoi ?
D'accord.
Enregistre-le, moi.
En fait, on n'a pas le droit de rester
sur le parvis, en fait, toute la zone grise.
Ah ouais, c'est une zone qui est privée ou...
Ouais, ouais.
Mais pas pour les gens qui travaillent à la... Si ?
Pas pour les gens qui travaillent à la CMA.
Ah ouais, d'accord. Ok, là c'est une zone... Ok, d'accord.
Voilà, faut vous mettre sur la zone qui n'est pas grise, si vous voulez.
Ok, donc on va se mettre en dehors
de la zone. C'est les règles, hein. C'est ouais. Pas moi qui les fais, mais bon.
Non, mais... Merci. Donc là, on vient de croiser un vigile. En fait, qui est donc autour de ce... au pied de la tour. Et autour de la tour, et là où il y a les deux sumo qui portent ce conteneur, voilà la tour, la zone grise. Cette zone grise est interdite aux gens qui ne travaillent pas à les CMA CGM. Donc nous n'avons pas le droit d'y être, donc on va se mettre en périphérie.
Voilà donc, laissons passer ce petit interlude. Tout est interdit. Hein. Hein, c'est le paradoxe. Mais. Revenons à nos deux sumo. Alors voilà, pour réconcilier les deux frères Sadé, le patron Michel Sadé de la tour CMA-CGM et son frère Michel qui reste au Liban, qui fait des affaires là-bas, puisque Michel s'est reconverti dans le conteneur sécurisé pour le transport maritime. C'est le premier affréteur mondial de conteneurs sécurisés. La marchandise, elle est livrée à coup sûr, à un prix meilleur que ce qui se faisait dans le siècle dernier. Donc c'est là où Sadé, la famille Sadé, fait son business. Et c'est pour ça, la tour CMA-CGM, c'est le siège mondial, c'est le siège qui a été décidé. Ils ont choisi la ville de Marseille. Et donc, le fait que l'entreprise Sadé s'installe à Marseille, ça a été un porteur. Ça a porté la dynamique de ce projet euro-méditerranéen qui allait drainer tous les financements nombreux et diversifiés à travers le monde pour reconstruire Marseille, pour lui redonner pour la relooker et la rendre un peu plus visitable.
Ouais. Parce qu'on... Attractif. Okay. Alors on peut lire là, il y a un panneau sous le conteneur avec le titre de l'œuvre. On va la lire. It takes two to tango. Alors, mon anglais est meilleur, ça veut dire il faut être deux pour danser. David Match, 2008, donation de la fondation d'entreprise CMA-CGM à la ville de Marseille en 2011. Remerciement à la fondation d'entreprise CMA-CGM. Partenaire de la dynamique culturelle et de l'embellissement de la ville.
Alors dans la symbolique, en marchant, je vais te raconter l'histoire des deux frères Sadé. Ils s'entendent plus après l'héritage de leur père. Ils sont depuis toujours des ennemis jurés. C'est et une bonne partie de leur fortune passe dans les tribunaux administratifs et commerciaux. la sculpture qu'on vient de voir, les deux sumos qui s'entraident pour soulever quelque chose d'insurmontable, quelque chose on dirait une montagne, on dirait qu'ils soulèvent une montagne. C'est pour réconcilier, c'est une invitation à la réconciliation des deux frères qui sont gros, gras et puissants. Ils ont de la puissance dans la puissance bancaire, financière, bien sûr. On ne parle pas de la puissance physique. Peut-être que c'est... D'ailleurs, Michel Sadé, le patron de la tour, il n'est plus là. Il est remplacé par son fils. C'est lui qui dirige actuellement le siège. Voilà. Donc, c'est une symbolique de réconciliation qui, en définitive, ne réconcilie personne. La D'accord. tour finira par être vendue à deux autres frères maintenant. Et cette fois-ci, c'est deux frères grecs qui sont acheteurs potentiels. L'opération est déjà en cours. Mais ce sont D'accord. des opérations financières qui prennent des années.
Voilà. Alors, là, on est vraiment au pied de la tour. On ne peut pas dire que ce n'est pas impressionnant. Et à l'intérieur de la tour, il y a une sorte de requin. Un requin, on va dire, un requin contemporain, très brillant, très lumineux. Voilà. Alors un requin dans cette tour, l'évidence du message, même pour, est tellement évident que c'en est déstabilisant, le requin. Donc on continue. Tout à l'heure, là, j'espère que vous écouterez l'émission jusqu'au bout, et puis l'émission commencera par une musique que Wahib a choisi justement, qui est une musique de Louis Armstrong, qui s'appelle
Takes Two Tango.
Voilà, qui est le nom en fait.
C'était l'inspiration de David Mash, l'artiste.
Ah voilà.
Qui a travaillé cette œuvre.
Il a pris le titre de la chanson de Louis Armstrong qui raconte.
Qui raconte un peu l'histoire de son amour qu'il a quitté. L'a quitté et il s'est senti comme une loque. Après le départ de sa bien-aimée, il n'était plus rien. Et il n'avait qu'à chanter le blues.
D'accord, il a pris ce titre-là. Ah, c'est violent, ça aussi. Je pense que Louis Armstrong doit être assez en colère dans sa tombe de savoir qu'une de ses chansons, qui parle d'une histoire d'amour, illustre le capitalisme à outrance de notre monde actuel. Donc là, à droite, on a le port, on va dire. En tout cas, on a les Corsica, etc., Algérie, qui partent, qui emmènent les voyageurs entre Marseille, Alger, Marseille, Béjaïa, Marseille, la Corse, Marseille, l'Italie.
La GTM, c'est la grande tour de Marseille. On ne peut que dire « je t'aime ». À la voir de loin, c'est vrai qu'elle a un côté sexy, on dirait une stripteaseuse, les bras ouverts, venez, rentrez, elle est située à l'entrée, à la sortie, à la fourche d'entrée-sortie, les jambes écartées. Marseille, elle a toujours eu les jambes écartées, elle reçoit à bras ouverts et le cul en l'air, les jambes écartées.
Elle est accueillante, Marseille est son hospitalité.
Voilà, on rentre, on sort, on fait son truc et on... C'est là où on est, c'est là où j'habite, et le film, j'aimerais qu'il raconte tout ça.
Donc, le film, oui, tu aimerais en fait que c'est un peu comme une odyssée alors, une odyssée qui raconte un peu.
Je pense que c'est la sculpture qu'on vient de passer de Dionysos qui t'inspire.
Oui, non, mais parce que c'est une fresque, tu filmes depuis 2006. On est en 2017,
c'est Neptune.
Donc ça fait 11 ans de tournage. Et tu comptes filmer encore de nombreuses années ou
Ça continue.
Tant que ça continue, tu filmeras.
Transformation perpétuelle, oui. Les transformations sont pas finies. Je t'ai dit, à la fin, je serai aveugle. Je deviendrai aveugle. Alors voilà, encore une symbolique de violence. Deux pièces. Deux sculptures, une vache en plastique et un chaudron en bronze. On s'approche un peu. La vache en plastique parce que la vache ne fait plus de lait. La vache ne donne plus de lait. Les finances de l'État fonctionnent à crédit. L'État-providence, c'est terminé. Par contre, la CMA-CGM, le chaudron en bronze, il célèbre cette vache. qui ne donne plus de lit. La bibine, il fallait bien la trouver. Elle est là dans ce chaudron vide, magistralement décoré. Gravé de d'esprit chinois.
Donc c'est,
ça... Il y a des esprits chinois, il y a même une écriture indo-sinaïque ancienne.
Alors, qu'est-ce qu'on arrive à lire dessus? Il y a écrit « Célébration on CMA-CGM 1 million to breakthrough ». Qu'est-ce que ça... C'est quoi ça? Tu sais toi, non? Septembre 2017.
Ils avaient, en 2007, ça veut dire qu'en 2007, ils avaient déjà atteint le 1 million de conteneurs qui ont transité par cette voie maritime, là.
D'accord.
Et avec la collaboration, bien sûr, de Chinatown. C'est des Chinois qui ont permis ce challenge, de maintenir ce challenge.
D'accord. Eh ben, dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge avec tout ça. On continue notre tour autour
voilà
de cette tour.
La porte d'Arin, quand c'est une porte Chanterac sur les sites à Grains. La tour nouvelle, la Marseillaise enfin.
Elle s'appelle comment?
La Marseillaise.
La Marseillaise, ah ouais. D'accord, parce que juste à côté de cette tour, tu as une sorte de petite tour qui semble être propriété d'AG2R La Mondiale, qui est une banque, on va dire. Même on va pas le dire, c'est clair. Donc c'est la Marseillaise. Pourquoi ce titre c'est...
Il faut demander à Jean Nouvel, hein, l'architecte.
Ah, c'est Jean,
parce que
Jean Nouvel
lui,
aussi.
C'est lui le metteur en scène. Ouais.
D'accord.
Alors la CMA-CGM, c'est Zaha Hadid. Elle est décédée. Que Dieu ait son âme. Jean Nouvel, le recycleur de ferronnier, hein, c'est le spécialiste du recyclage en architecture. Il faut lui poser la question, pourquoi la Marseillaise? Peut-être par rapport à ses origines coco, ministre.
D'accord, bah
voilà,
dis donc.
Il y a une partie rouge.
Il n'y a que des origines qui doivent...
Il y a le rouge qui domine, mais il y a le bleu et le blanc qui gardent leur place.
Mais Jean Nouvel...
Bien que le bleu, il est un peu...
C'est lui
adouci.
Qui a construit à Lille, cette grande... justement, où tu as ce mélange de l'arrivée des trains, de ces grandes surfaces. C'est ça, Jean Nouvel? C'est cette architecture un peu où... Où tu as l'impression d'être dans des décors de cinéma, quoi, mais futuriste.
Ouais. Sa spécialité, c'est l'intégration du recyclage industriel. Tout ce qui est issu de l'ancienne friche industrielle, il l'intègre dans le nouveau, dans le moderne.
D'accord.
C'est son concept. Ici, qu'est-ce qui est intégré? Donc, il y a beaucoup de ferraille, hein, tu vois bien. La structure centrale est toujours en béton. Bien entendu, puisque les tours, c'est, par principe, c'est du béton armé. Tu as des petites structures latérales que tu vois là. On dirait que c'est de la ferraille qui ressemble au reste de la... Mais non, mais ce sont des structures en béton, en BFU, en béton fibreux. Ils sont fabriqués pas loin, d'ailleurs, dans la région. Là, il rejoint un petit peu l'esprit dans le concept... de l'utilisation du béton fibreux de Ricciotti.
D'accord. Donc Ricciotti, c'est celui qui a construit...
C'est le spécialiste de...
Le Mucem.
Oui, c'est voilà. Le spécialiste du béton fibreux. Ouais.
C'est assez, assez angoissant, on va dire, en tout cas de mon
ultra
point de
résistant.
Vue. Rayonnement métropolitain, attractivité économique. Là, on est devant un panneau, une photo qui est un peu... nous raconte comment sera Marseille en 2035, on va dire.
Il y aura 135 mètres de haut, 31 mètres.
D'accord, et c'est... on voit qu'en plus de la tour CMA, il y aura trois autres grandes tours. Donc la tour CMA, qui se situe à peu près à hauteur de la tour CMA, va 135 mètres de haut, 31 étages, voilà. Et à côté, c'est... ouais, c'est un, bah c'est un Marseille futuriste, quoi. Hein. C'est où... oui, c'est pour les aliens, quoi.
Non, c'est une démonstration de force, pas plus. Marseille, il sera ni futuriste, ni arriériste. Hein. Marseille restera Marseille, parce que la population de Marseille, l'originale, elle est toujours là. Et comme je t'ai dit dans le texte que je t'ai lu tout à l'heure, c'est pas des gens qui réagissent sur le coup, Marseille. Marseille se laisse faire peut-être, ça, c'est son tempérament. Elle adopte le monde, c'est la première ville d'Europe.
Elle l'absorbe, Marseille. Tu veux dire ?
Elle prend tout, le meilleur et le pire. Mais son esprit, ni il sera contemporain, ni il sera vieillage. Son esprit restera son esprit. On ne peut pas réagir à la violence par la violence. On ne peut... C'est ce qu'on apprend en vivant à Marseille. On en réagit à la violence par l'inertie, par une force de résistance. Un sumo, s'il arrive à soulever une montagne, c'est par son propre poids qu'il arrive. C'est pas par la force de ses bras qu'il soulève. C'est son propre poids qui...
Donc là, on est au terminus actuel du tram à Marseille, donc c'est à Rennes.
Du char de ce carnaval.
Qui va être prolongé d'ailleurs, ce terminus, c'est bientôt, va bientôt être...
Pas loin de Bougainville, sur la plateforme logistique, qui est déjà prête à le recevoir. Mais voilà. Donc en attendant que toute cette partie se s'urbanise, enfin... Le parc habité où nous sommes là va finir ses travaux et avant d'assister par la suite à la destruction de tout un quartier, le quartier Arinque.
Arinque,
le village des Crottes, il va être entièrement entièrement démoli. Il compte actuellement 3000 habitations.
De toute façon, c'est une démolition massive, mais qui a commencé par une sorte de paupérisation assez violente.
Ils ont à peu près convaincu tous les habitants, que ce soit des propriétaires ou locataires, que pertinemment, dans quelques temps, ils vont être délocalisés. Donc les 3000 habitants, pas 3000, les 3000 foyers qui habitent aujourd'hui à Arinque, qui vont être déplacés ailleurs dans l'idée de la promesse en fait du projet Euromed dans sa phase terminale, c'est de construire à la place 33 000 logements. On multiplie la capacité d'accueil par 10. Donc,
dans le quartier des Crottes, entre autres.
Au même endroit. Et à ce stade-là, donc, ce sera l'occasion, durant ce chantier de démolition, de faire passer le tram jusqu'à la plateforme logistique Bougainville, qui deviendra la gare par excellence, qui va desservir maintenant, qui va avoir d'autres servitudes. Voilà. Mais le tram, comme il a été promis, qui va partir jusqu'au quartier nord, etc., c'est une aberration.
C'est faux. D'accord. C'est un mensonge d'État. Donc là, on est en train de finir notre tour et de revenir petit à petit à la rue Ruffy, d'où on est parti tout à l'heure. On sent tout de suite la différence de bruit. C'est moins bruyant, un peu plus calme, mais bon, ça reste d'une grande densité sonore.
Notre chantier, enfin. Voilà. Alors voilà ce qui va se passer en bas de chez moi. Sous mon balcon, il va se passer ça. Comme ça, tu as une idée de exactement à cet endroit, donc sur ce rectangle, au coin, sur ce carré-là, il y aura cette tour-là.
Du studio aux 5 pièces avec balcon ou terrasse, vue mer. Donc c'est-à-dire qu'on va construire un bâtiment juste devant le tien qui va t'empêcher de voir la mer, mais eux, ils pourront la voir. Ils vont pas pouvoir l'avoir, la mer, eux. C'est ça.
Bon, il aura à peu près la hauteur de ce bâtiment, cet immeuble qu'on a en face. Bah, pour les étages supérieurs, oui. En attendant que sur la rade de Marseille, sur la rade du port, il ne se construise pas encore d'autres bâtiments plus hauts. Mmh. Par exemple, le complexe cinématographique de Besson.
Ouais, qui est toujours en projet.
Oui, oui. Et donc la suite sera des commerces, etc. Tu vois, qui bougent, tu vois, qui bougent. Et ce qu'ils nous promettent, nous, dans notre cas de locataires de logements sociaux, les derniers logements sociaux du secteur, ils nous promettent de nous... la cerise sur le gâteau, de nous, comme on voit sur le panneau de chantier, ils nous promettent ce qu'on voit sur la carte, cette affiche, ils nous promettent un gazon sur les toits. Donc, imagines au-dessus,
un jardin.
Nous mettre un jardin suspendu, moyennant une petite, bien sûr, une petite augmentation de loyer.
Ah, quand même, voilà. C'est pas gratuit. Là.
Non, rien n'est gratuit. Parce qu'il faut bien tirer un peu, comme on a dit, hein. Toujours tirer vers le haut. C'est pour nous pousser à l'extérieur.
Voilà. Ah oui, on tire.
Voilà, on nous met un gazon sur la tête.
Et toi, tu penses que tu vas pouvoir rester encore avec tout ça dans ton logement? Ou ça va à un moment devenir problématique?
Laissons voir l'avenir. On ne peut pas deviner.
En tout cas, les loyers risquent d'augmenter un petit peu chaque année par des process, que ce soit un jardin sur le toit ou un ascenseur qui te parle. Chaque année, il va y avoir quelques neurones en plus sur ton loyer.
Non, c'était chouette de faire ce petit tour avec ta compagnie, Lolo. Bien qu'on aurait pu le prolonger plus longtemps. Voilà. Mais on va aller boire un petit...
On va aller boire un petit coup sur ta terrasse. Profiter de cette terrasse qui nous permet d'avoir une vue sur la mer assez magnifique, même si, comme on vient de le raconter, de plus en plus de tours commencent à te rendre aveugle. On est à Marseille au mois d'août, 35 degrés à l'ombre, mais on sent un petit vent, le fait d'être près de la mer.
Parce qu'on a exprimé beaucoup de points de vue depuis tout à l'heure, maintenant on va profiter un peu d'un point de voir les choses et de laisser... de l'auditeur un peu en paix.
Donc, on vient d'entrer dans l'ascenseur. On monte au sixième étage, qui est le dernier étage de cet immeuble. Sur la tienne de terrasse. Mmh. Ouais, on est bien. Voilà. Donc voilà, on est arrivé au sixième étage, en face de Shipping the Future, CMCGM, surfons sur le futur. Le futur nous rend aveugles. À gauche, on voit Notre-Dame de la Garde, c'est ça ? À gauche, qui est un peu moins haute que la tour CMA-CGM. Quand on vient par Marseille de l'autoroute, c'est un peu les deux pics que l'on voit, quoi. Nos deux sommets, la tour CMA-CGM et Notre-Dame.
Là, c'est un texte que Marc Fallon a écrit dans la revue L'impasse du cinéma, une revue italienne qui soutient toujours les éditions de Marc. À chaque fois, il venait chez moi, il s'arrêtait sur ce balcon et il me disait des choses. Et en fait, moi ça m'a
pour préciser, tu parles de Marc et je pense que c'est intéressant de le préciser aussi parce que c'est Marc Cialom qui a réalisé L'être à la prison et qui est aussi un film qui parle de Marseille aussi puisqu'il est en partie tourné à Marseille, quelques plans en Tunisie, et qui est aussi un point de vue, un point de voir de quelqu'un qui vient de Tunisie pour chercher
puisque Marc,
son frère.
Voilà, dans tous ses films, il traite de la question de l'exil, Marc.
Voilà.
Et Marseille, par ses origines, par son histoire et par l'histoire de ses habitants et des gens qui la traversent, Marseille, c'est la ville qui accueille tous les exilés qui viennent de Méditerranée ou d'ailleurs, ou beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que dans tous les films de Marc, il y a une présence de cette ville, de son port, de ses rues, de ses habitants, qui est constante.
Alors tu vas nous lire quelques lignes de ce texte de Marc dans la revue Impasse,
oui,
du cinéma. On t'écoute.
Puis, elle s'arrête sur la tour CMA-CGM, construite d'après un projet de Zaha Hadid, quartier général de la compagnie de navigation, homonyme. L'édifice est un monolithe imposant. Son aspect est inévitablement dramatique. C'est une incision définitive dans le paysage, un coup de poignard impitoyable qui en redessine pour toujours l'orientation. Quelqu'un de l'équipe propose d'interrompre la prise de vue avant que cette tour n'entre dans le champ. Mais comment pourrait-on ignorer une telle présence ? Dans les plans suivants, sous une lumière désormais crépusculaire, l'aspect du gratte-ciel se modifie. Tandis que la troupe d'amis que nous sommes, se prépare au repas, un repas en plein air, comme sur la terrasse tunisienne du film Nuit, Lettre à la prison, Nuit sur la mer, dans le jardin d'Utopie, Stéphie et ses camarades, Wahib et ses copains. On commence à parler de l'identité. L'enveloppe extérieure de la tour semble être devenue transparente. Un ensemble de lampes se sont allumées à l'intérieur. On sent que tout se transforme. La structure monolithe close pèse pure matière en un tissu de lumière qui la réhumanise. Curieusement, ces deux phases du gratte-ciel de Hadid bien représentent deux pôles entre lesquels est suspendu le film Nuit sur la mer, d'une part, la mort, l'exil, l'absence, d'autre part, la lumière, la liberté, le dépassement des frontières, l'humanité et même l'appartenance, mais de manière sarcienne. Quelque chose d'infiniment grand et indistinct, le gratte-ciel de Marseille fait penser au monolithe de Marc. Ou à la montagne du purgatoire dantesque. La montagne du purgatoire de Dante qui s'appelle Piac, comme il n'y a plus d'autres, sans doute. C'est un petit extrait en fait d'interview que Marc avait accordé à cette revue et qui a été transcrit. Donc à un moment, Marc il s'approprie, hein, l'endroit, et il nous avait invité, si tu te rappelles, dans le film Nuit sur la mer, à ce repas, et là où on lui racontait que cette tour, que moi je l'avais rêvée, en train de prendre feu, qu'elle était vraiment en feu. Il était surpris de voir vraiment les images de la tour prendre feu. Parce qu'il y avait à l'époque le feu de la CGT. La CGT, ils avaient mis le feu sous la tour. Donc on voyait un feu, un mélange de rouge. C'était les torches hein, des manifestants. Et de l'autre côté, il y a des pyromanes qui ont incendié tout le stock de pneus et de palettes qu'un clodo a ramassé tout le temps parce qu'il faisait son petit commerce avec du vieux pneu et de la palette en bois. Donc il y avait un feu géant ce jour-là. D'un côté la manif de la CGT des dockers du port. C'était leur dernière manif d'ailleurs. Et moi j'avais filmé ça. Et la nuit, j'ai pas arrêté de faire des cauchemars parce que je me disais, mais putain, la tour, elle n'était pas encore finie. Elle était à sa phase terminale. C'est vrai que sa robe vitrée arrivait à moitié. Et déjà qu'elle prenait feu. Donc la nuit, je faisais des cauchemars et c'était terrible. Donc quand j'ai raconté l'histoire à Marc, il voulait ces images et on les a intégrées dans le film Nuit sur la mer et en vérité c'est vrai ce qu'il raconte de point de vue lumière parce que Marc il a aussi traduit énormément de traités scientifiques sur l'histoire du cinéma sur la question de la lumière. Des traités par des Italiens, puisqu'il maîtrise le maître d'Italien, Marc. Et il y avait quasiment personne qui se sentait capable de traduire avec précision les termes scientifiques de ces auteurs, de ces auteurs italiens qui traitaient de la question de la lumière dans le cinéma. Et c'est vrai qu'avoir cette tour entre le matin à l'aube jusqu'au crépuscule, il y a une transformation. C'est vraiment un spectacle lunaire. C'est vraiment très prenant hein, à l'image. Quand on regarde ça, c'est vraiment très pesant. Il y a des moments qui sont très pesants. Hein. Très pesants. Surtout le matin, au lever du jour. Et aux sonorités de la ville qui commence à être investie par d'abord par les voitures qui rentrent en masse en ville et par les engins des services de voirie autour du quartier. Il y a une atmosphère, comme je te dis, est vraiment... On n'est plus dans cet espace, on est comme transporté dans un espace lunaire. C'est une ambiance... pesante, c'est angoissant. Alors que le soir, au coucher du soleil, on a vraiment une sensation de rêve, mais vraiment, on est dans le futur, là.
On
est vraiment, vraiment, on sort de sa peau. Et donc, ces sensations qu'on peut avoir face à ce monolithe, comme il le décrit Marc, c'est un peu aussi les images que, où je m'attarde moi souvent quand je revois mes roches. Je revois parce que je filmais en mini DV et ce n'est pas une qualité à haute définition, comme on peut dire, mais ça a sa qualité quand même, le mini DV. Même avec ses aspérités, oui, ses petites poussières.
Voilà, il y a plus de fragilité dans le DV que dans la HD, qui est un peu une image à l'image de cette tour, quoi, très lisse.
Exactement. Exactement, là, voilà. Malgré toutes les aspérités du mini DV, ce côté granulé. Après, moi, j'ai recodé tout ça,
ce qui fait que tu as commencé ton tournage en DV et que là tu es en train maintenant de le continuer en HD, alors.
Il y a des plans fixes que j'aimerais faire parce qu'il y a quelques images photographiques, je veux dire, que j'aimerais bien prendre en plan fixe en HD. Parce que ça illustre un peu le côté violence symbolique. Je pense que là, il faut être dans l'aspect du faiseur. C'est pour ça que la HD répond un peu à ce côté lisse, ce côté poli, cette polissée. Et donc c'est vrai que c'est des plans fixes qui seront plutôt des images fixes, qui montrent un peu ce qu'on a commenté dans cette petite balade ce matin. Il y a des vis-à-vis, il y a des champs contre champs, il y a des angles aussi. Il y a des angles qui parlent d'eux-mêmes. C'est de la photo. C'est vraiment de la photo. Donc on le fera avec une caméra HD en plan fixe et ça montrera ce que ça montre.
Nous arrivons vers la fin de cette émission en quête de cinéma avec Wave Mantada.
Laurent Tivol.
Laurent Tivol. La petite promenade autour de cette tour CMA-CGM, Shipping the Future. La construction de cette deuxième tour marseillaise qui est... prépare la troisième tour et la quatrième tour pour une opération de réhabilitation dans les termes citoyens, de gentrification dans les termes politiques qui nous conviennent. Voilà, du balcon de Wave Mantada, rue Ruffy. On vous souhaite un beau mois d'août et on vous retrouve pour la prochaine émission. En octobre.
Hey baby, how about this dance? Why? 'Cause it takes two to do this dance. Takes two the tango, two the tango, two to really get the feeling of romance. Let's do the tango, do the tango, do the dance of love. You can sail on a ship by yourself. Take a nap or a nip by yourself. You can get into debt on your own. There's lots of things that you can do alone. But takes to the tango, to the tango, to the really get the feeling of romance. Let's do the tango, do the tango, do the dance of love. You can croon to the moon by yourself. Take a laugh like a loon by yourself. Spend a lot, go to pot on your own. There's lots of things that you can do alone. But listen here, it takes two to tango. Two to tango. Two that really get the feeling of romance. Let's do the tango. To the tango, I do that dance of love, oh Zed. in that time. Look here, who's gonna dance with me now? Cause it takes to the tango, to the tango, to really get the feeling of romanceless. Do the tango, do the tango, do that dance of love.